vous avez entendu l'évangile du jugement dernier, où tout ce que l'on fait ou ne faisons pas aux autres, c'est au Christ, donc à Dieu, que nous le faisons ou ne le faisons pas, et c'est là que nous serons jugés. Cet évangile-là est mis à notre portée, est mis à notre méditation le dimanche qui précède l'entrée dans le carême, pour nous donner encore, nous permettre encore de nous axer le long de la piste d'atterrissage, dans l'axe de la piste d'atterrissage du carême. Tout ce que nous allons essayer de faire, toute la saisie que l'on va déployer pendant le carême, et rappelons-nous que le carême est l'image de toute notre vie, donc c'est pendant toute notre vie qu'il faut avancer dans cette optique-là. Toute cette ascèse n'a de sens que dans la mesure où elle révèle un amour pour Dieu et un amour pour les autres. L'essence, si je puis dire, de cet évangile, c'est de nous montrer que c'est par l'amour que nous sommes sauvés. Notre salut vient par l'amour et non pas par l'accomplissement de préceptes quels qu'ils soient, même les meilleurs. Tout ce que nous ferons aux autres, ou tout ce que nous ne ferons pas aux autres, c'est au Christ même que nous le ferons, que nous le faisons, que nous ne le faisons pas. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit être fait avec un amour réel pour l'autre, pour Dieu d'abord, pour les autres en même temps. Ce qui est la définition de la charité, de l'amour au sens agapé. La charité qui consiste à donner sa vie, pas simplement ses biens, pas simplement son temps, mais donner sa vie à l'autre au nom de Christ. Et ce don d'amour aux autres implique forcément, à la base, ou finalement, implique un renoncement à sa volonté propre. Le nœud de notre relation avec Dieu, c'est ce renoncement à notre volonté propre. Ce n'est pas par pitié que l'on donne aux uns et aux autres. Ce n'est pas non plus par obligation, encore qu'il faille commencer par là. Mais c'est vraiment par un renoncement à sa volonté propre. L'autre me demande quelque chose, ou l'autre a besoin de quelque chose, je lui donne en fonction de mes possibilités, je lui donne ce que je peux lui donner pour répondre à ses besoins. C'est là-dessus que nous sommes jugés. Et c'est ainsi que, à la fin des temps, chacun choisira en fonction du degré d'amour qu'il aura mis dans toute chose, ou du non-amour, c'est-à-dire de l'égoïsme. C'est ainsi que chacun se présentera devant Dieu en se mettant ou à droite avec les brebis, ou à gauche avec les boucs puants. Ceci est fondamental et ceci oriente notre carême. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour du carnaval. N'allez pas penser au carnaval de Malmort ou au carnaval de Venise ou celui de Rio, bien qu'il y ait un lien. Mais le carnaval, la question a été posée récemment. Carnaval, c'est le mot carne, comme carnassier, comme carnivore, comme carmen, d'autres mots encore que j'avais trouvé de l'heure, puis j'en trouve pas. Évidemment, si, comme incarnation, ça veut dire la chair. La chair ou éventuellement la viande. Donc aujourd'hui, dimanche de carnaval, dernier jour où nous pouvons manger de la viande avant le carême et avant Pâques. Je vous encourage, je vous engage à respecter cette coutume, cette loi, parce qu'elle génère, elle provoque quelque chose dans notre cœur quand on le respecte. Cependant, ce n'est pas l'absence, la privation de viande qui nous sauve, mais c'est l'amour avec lequel on se prive de viande, par exemple, qui est notre salut. Et les œuvres spirituelles sont encore supérieures, évidemment, aux œuvres ascétiques et auxquelles nous engage le carême dans lequel nous rentrons. On pourrait développer beaucoup ce thème-là, qui serait fort intéressant, notamment en reprenant des citations de saint Paul montrant comment c'est l'amour qui nous sauve. Parce que ceci est théologique. Ce n'est pas une manière de parler, ce n'est pas une image. C'est le salut suivant selon l'amour est la conséquence même de la relation qui existe entre l'existence ou entre l'être de Dieu et l'être de l'homme. Par essence, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas décrire, l'évangéliste Jean nous dit que par essence, le Christ est amour et il est lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière. C'est sa nature. Il est réellement ça, une nature, c'est un amour vivant, personnel, volontaire. Mais il est d'ordre de l'amour et non pas de l'ordre charnel, bien sûr. Et l'homme qui est créé à l'image de Dieu est créé aussi pour aimer, non pas pour s'enfermer sur lui-même, non pas pour jouir de l'amour des autres, mais pour donner son amour aux autres. Ce qui fait, par exemple, qu'il est tout à fait possible d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas, autrement dit d'aimer ses ennemis. Ce n'est pas incompatible. L'amour n'est pas une affection, n'est pas un sentiment ressenti de plaisir, de joie, d'être avec quelqu'un ou quelques-uns. On ne peut pas avoir de plaisir, sauf si on a des déviations personnelles, on ne peut pas avoir plaisir à être avec son ennemi, à s'exposer à son ennemi. Mais on peut avoir un amour pour son ennemi, parce que c'est d'un autre ordre, c'est pas de l'ordre de la psychologie ou de l'affectivité, c'est d'un amour de don de soi. Je raconte souvent cet épisode d'une femme martyrisée par son mari qui l'a trompée. Et alors que, après des années où il avait failli la tuer plusieurs fois, tout le monde lui avait conseillé de divorcer, sortant de chez le notaire pour signer les premiers, pour avoir les papiers, pour entrer dans cette démarche du divorce, entre dans une église devant l'icône de la Mère de Dieu qui lui dit « Eh bien quoi, tu ne veux pas porter avec moi la croix de mon fils ?» Et du coup, elle a jeté les papiers, elle n'a pas donné suite à son divorce. Et elle a dit à celui qui en était témoin, ce n'est pas moi, mais quelqu'un qui me l'a rapporté de près, et elle a dit, vous comprenez, maintenant je ne peux pas divorcer parce que maintenant j'aime l'âme de mon mari. En voilà une qui aimait son ennemi. Et donc, Dieu étant à amour, et l'homme ayant été conçu pour l'amour, Le salut, c'est de retrouver cet amour-là. Donc, de donner notre amour inconditionnellement à Dieu et aux autres. Le Christ, le Verbe de Dieu, s'est incarné, il s'est fait homme pour être le lien entre la Sainte Trinité et la Sainte Multiplicité des hommes. Mais nous sommes tous des êtres qui sommes incorporés au Christ, qui sommes des membres du Christ, qui sommes le Christ. Ensemble, nous sommes le Christ. Donc nous sommes ensemble le lien, la colonne le relais entre Dieu et l'humanité. Et si Dieu est véritablement amour, nous ne pouvons, pour accomplir cette vocation de lien entre Dieu et le cosmos, nous ne pouvons que vivre pour et de l'amour. Vivre de l'amour de Dieu et pour l'amour des autres. Et c'est le seul moyen de pouvoir transfigurer le monde et d'amener le monde à son salut définitif, c'est-à-dire à sa divinisation, à sa transfiguration et à sa divinisation. J'entendais, et vous avez beaucoup plus d'exemples que je ne vous en donnerai, j'entendais dire que des chercheurs voudraient prendre des gènes des puces sautantes, les animaux, les parasites, prendre des gènes de puces pour pouvoir modifier génétiquement le corps de certains athlètes. Étant donné qu'une puce saute 80 fois là-haut, sa propre hauteur, imaginez si on pouvait doper des sportifs pour sauter 80 fois plus haut que leur propre corps. Il paraît qu'on recherche ces choses-là. Mais je ne le savais pas pour ce cas-là, mais c'est évident que la recherche génétique aujourd'hui crée des monstres semblables. Et ce qui indique la fin des temps, si vous voulez. On ne reconnaît plus la création comme étant de Dieu. L'homme, non seulement a voulu s'auto-déifier, mais maintenant il veut se gérer lui-même. Il veut remplacer le Créateur pour être lui-même démiurge, lui-même créateur. C'est de la folie. C'est de la folie et ça ne peut amener que la dégéance, la monstruosité et finalement la fin du monde. Mais comment par... Vous n'y pouvez rien, les expériences génétiques qui sont faites, on ne vous demande pas votre avis et à moi non plus. Comment réagir par rapport à cela, à ces choses-là? C'est justement en apprenant à aimer, en apprenant à travers le respect des lois du carême, par exemple, en nous incarnant dans toute l'histoire de l'Église, dans la pratique de l'Église depuis des milliers d'années, depuis l'Ancien Testament même déjà, en assumant avec humilité ce que l'Église, la voie que l'Église nous montre, ça permet non seulement soi-même de résister à cette dégradation du monde auquel nous assistons, mais même de prendre ce monde déchu et dont on porte nous-mêmes la déchéance par communion, même dans ce qu'il y a de mauvais à cause de notre péché, mais en même temps de lever ce poids-là, de lever ce fardeau-là, de lever cette déchéance du monde en lui ajoutant la présence du Saint-Esprit à travers notre ascèse, notre prière. Si bien que pour résister à ces tentations mondaines de vouloir faire le salut par nos propres forces ou presque par opposition, pour résister au découragement que pourrait créer ce monde dont on constate la fin, c'est de nous enfoncer encore davantage dans la foi absolue, dans le salut que le Christ nous apporte à travers son incarnation qui s'achève, qui se scelle en quelque sorte par sa crucifixion et sa résurrection, son ascension aux cieux, et d'attendre avec reconnaissance et attirance et espérance, attendre de monter avec lui dans le royaume des cieux et en attirant avec nous le reste de l'humanité. Parallèlement à cette entrée dans le carême, la semaine prochaine, mais qui commence déjà un peu maintenant. Petite parenthèse, vous avez entendu tout à l'heure, pendant leur trosse, le chant du psaume 90, au bord des fleuves de Babylone. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous allons encore chanter ça dimanche prochain pendant l'office du pardon. C'est justement en prenant conscience de la, comment dire, en prenant conscience du drame de notre éloignement de notre véritable pays que l'on peut avoir envie d'y retourner. C'est en prenant donc, c'est par la componction, c'est par l'humilité de nous reconnaître pécheurs concrètement tels que nous sommes, que l'on peut voir comment on est éloigné du pays, du royaume des cieux dans lequel nous devrions être, et qui peut nous donner l'énergie pour nous tendre, pour nous orienter vers le salut par les méthodes que l'on disait tout à l'heure, par l'amour aux autres et à Dieu. Et puis, on m'a posé une question, qu'est-ce que le martyr de la conscience ? Le martyr de la conscience est une formule, est une expression ambivalente. C'est-à-dire que notre conscience est pour nous un martyr. Notre conscience nous rappelle constamment le mal que nous faisons et le bien que nous ne faisons pas. Nous sommes martyrisés par notre conscience qui nous rappelle constamment à l'ordre et qui nous fait remarquer notre faiblesse. Ceci est un martyr. Un martyr qu'il est nécessaire d'accepter avec humilité, de manière à essayer d'y remédier autant que nos forces nous le permettent. Et le martyr de la conscience a un autre volet, un autre aspect, c'est-à-dire qu'il faut martyriser sa confiance. Je veux dire par là qu'il faut orienter, canaliser, tailler, greffer notre conscience de manière à l'épurer, de manière à enlever toutes les scories ou les rejetons négatifs pour purifier notre conscience et de pouvoir la suivre, pour pouvoir réorienter notre vie selon le but que Dieu lui a assigné, c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire l'union, la déification, l'union en Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et tous ensemble. Et vous comprenez bien que si, ce que je disais tout à l'heure, que Dieu est amour, et que le salut, c'est la déification, c'est-à-dire devenir un avec Dieu, il ne peut pas, cette unité ne peut pas se satisfaire d'une faille dans cet amour, avec la haine, le non-amour d'une seule personne de l'humanité, sinon immédiatement nous sommes coupés de cet amour. Dieu aime tous les hommes et nous devons nous aussi aimer tous les hommes. Et puis dernière question, vous voulez que je vous définisse le mot mystagogie. Je ne sais pas si ma définition en est une véritablement, mais la mystagogie, c'est la connaissance, la science si vous voulez, la science, la connaissance du mystère qui s'incarne dans un aspect ou un autre de notre. La mystagogie du carême, parce que il y a un livre qui vient de la thèse de Père Macaire qui vient d'être publié, qui est une thèse remarquable. Je dis pas ça parce que c'est un de nos frères, mais parce que vraiment elle est fondamentale pour la compréhension du carême. La mystagogie du carême, c'est l'étude par la foi essentiellement, pas simplement intellectuellement, mais c'est l'étude de la signification mystique spirituelle du carême. Pourquoi on fait telle lecture? Pourquoi on fait telle pratique? Pourquoi tel tropaire? Pourquoi tel jeûne? Pourquoi... Voilà, c'est la signification de ça, mais dans son aspect mystère, l'entrée dans le mystère du carême. La mystagogie de la liturgie, dont on parle souvent, la mystagogie de la liturgie, c'est la connaissance, la découverte, le goût, la saveur que l'on peut prendre au mystère qu'implique la liturgie et auquel nous initie la liturgie. Dans la mystagogie de la liturgie, nous comprenons par exemple que lorsque nous chantons Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, ou que lorsque nous chantons l'hymne des chérubins, nous qui mystiquement représentons les chérubins et chantons l'hymne trois fois sainte à la vivifiante de Trinité, c'est la mystagogie nous montre que ce n'est pas un rite que nous accomplissons, mais que c'est une élévation, c'est une transfiguration authentique de notre vie à ce niveau angélique, au niveau du royaume des cieux, où tout en chantant dans une église construite, une église de pierre ou de bois, mais enfin une église construite, et tout en ayant mal au dos, ayant envie de dormir, et en ayant faim, ou je ne sais encore quels aspects qui nous retiennent à cette vie, ou en ayant du mal à supporter notre voisin qui chante mal et l'autre qui se racle la gorge, bien qu'il y ait ce niveau humain qui nous submerge quelquefois, en même temps, à un autre niveau réellement, et qui n'est pas simplement de l'imagination, qui n'est pas de la poésie, qui n'est pas une image et tout ça, nous sommes véritablement élevés déjà dans notre condition future, dans le royaume des cieux, à concélébrer avec les anges, avec les archanges, avec tous les saints, avec la mère de Dieu, avec les prophètes, hein, à chanter la gloire de Dieu que l'on ne voit pas directement avec nos yeux de chair, mais que les yeux de la foi, que la mystagogie nous permet de comprendre, et de comprendre non pas seulement intellectuellement, mais avec toute notre être et notre foi. Voilà ce qu'est la mystagogie. La mystagogie n'est pas une catéchèse à proprement parler, mais elle est une expérience à travers les explications. Elle est la connaissance d'une expérience qui est de l'ordre du mystère, donc qui nous dépasse, qui est de l'ordre de notre vie éternelle.